Mesdames, Messieurs, chers journalistes de Goma, de Kinshasa, fidèles auditeurs de Radio Okapi, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire de la conférence de presse des Nations Unies. Au sommaire de cette conférence de presse des Nations Unies à RDC, nous aurons à partir de Kinshasa les activités de la MONUSCO, les activités de l'équipe pays avec notre collègue Geneviève Delenoy pour le volet développement, le collègue Sylvestre Ntumba Mudingay pour le volet humanitaire, et le major Romain Cassan, porte-parole militaire AI, nous donnera quelques éléments d'information sur la situation militaire à partir de Goma. Nous avons aujourd'hui comme invité à cette conférence le commandant de la force de la MONUSCO, le général Carlos Alberto Santos Cruz, à partir de Goma, ainsi que Abdul Aziz Choi, directeur adjoint du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et le docteur Nicolas Nkiri, point focal tuberculose à l'OMS à partir de Kinshasa. Comme vous le savez, nous avons commémoré hier la journée internationale de lutte contre la tuberculose. Activité des composantes de la MONUSCO à présent, protection de l'enfant. Les opérations militaires contre les groupes armés tels que les FDLR, le FRPI, l'ADF et autres ont donné lieu à la séparation d'un très grand nombre d'enfants utilisés comme combattants et se jouant d'autres rôles de soutien qui ont été séparés de ces différents groupes armés. Du 1er janvier 2015 à ce jour, plus de 510 enfants, 491 garçons et 19 filles ont été séparés de ceux qui les ont recrutés illégalement. 37% de ces garçons et filles étaient âgés de moins de 15 ans, ce qui est un crime de guerre. En outre, le 20 mars, les FARDC ont remis à la MONUSCO 15 enfants anciennement associés au FDLR. Dans le cadre du plan d'action pour prévenir le recrutement d'enfants dans les forces nationales, les FARDC ont accordé un accès complet et sans entrave aux agents de la section protection de l'enfant de la MONUSCO et partenaires afin de vérifier s'il y a des enfants dans leur rang. Pendant le processus d'identification, des 2773 éléments des FARDC au sud Kivu, nord Kivu, province orientale et Katanga, aucun enfant n'a été trouvé. À présent, je passe la parole à Geneviève Delenoy pour les questions de développement. Geneviève, c'est à toi.
Merci beaucoup. Bonjour à tous ici à Kinshasa, à Goma et sur les ondes de Radio Okapi. En 2030, la planète comptera 9 milliards d'habitants. La République démocratique du Congo, à elle seule, pourrait nourrir 2 à 3 milliards de terriens si les conditions sont mises en place. L'agriculture reste l'activité principale de millions de populations rurales en Afrique et en RDC. En RDC, ce secteur occupe près de 80% de la population et le pays compte 80 millions d'hectares de terres arables. Du 22 au 25 mars, le PNUD a co-organisé le Forum international Agri-Business sur le thème suivant « Vers une croissance inclusive, une nouvelle vision pour la transformation agricole en Afrique ». Pendant 4 jours, des petits producteurs, des bailleurs de fonds, des représentants des secteurs privés et publics, des banquiers, des chefs de coopération technique ont discuté du secteur agroalimentaire et de ses filières. Objectif, rendre l'agriculture plus performante, briser le cercle vicieux de la faim et de la malnutrition, nourrir sainement la population à un prix abordable et préserver le rôle majeur de l'agriculteur. Ce forum agribusiness crée des opportunités d'affaires. Les défis et les enjeux sont connus. Rendre les pays africains et la RDC autosubsistants, où les petits producteurs gardent leur place, tout en ne perdant pas de vue que d'ici à 15 ans, 30% des terriens pourraient être nourris grâce à l'agriculture congolaise, qui deviendrait alors le grenier de la planète. Toujours à propos du PNUD, la superficie de la RDC, vous le savez, est immense, 2 400 000 km². Sa diversité géologique et hydrographique l'expose à plusieurs types de risques naturels tels que l'érosion côtière, les inondations au Bas-Congo, les glissements de terrain à Bukavu, les risques d'éruption volcanique à Goma ou d'explosion de gaz méthane dans le lac Kivu. Pour mieux se préparer à ces périls éventuels, la RDC et le PNUD ont élaboré un document de projet qui s'appelle « Appui au renforcement des capacités en gestion des risques naturels en RDC ». Ce projet prévoit de renforcer les capacités et les équipements des experts et équipes de secours du gouvernement congolais, de mettre à jour la plateforme nationale de gestion des risques naturels également. Ce projet diffusera des outils de cartographie. Il permettra aussi d'avoir un système d'alerte précoce et de prévention des risques à Kinshasa et dans une province pilote. Je termine encore avec le PNUD pour vous signaler que 3 antennes provinciales de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et de la réduction de la violence armée, en sigle CNC-ALPC, sont inaugurées cette semaine. Ces 3 antennes sont partie intégrante du projet de lutte contre la possession et la circulation illicite des petites armes et des munitions en RDC. Cette inauguration illustre aussi la volonté des autorités de mener à bien ce projet de désarmement et de restauration de la sécurité, dont elles se sont entièrement appropriées les résultats. En termes de construction et d'équipement des différentes antennes de la CNC-ALPC, ce projet a permis de réceptionner au total 5 bâtiments totalement achevés et équipés à Bunia, Boma, Lubumbashi, Mbandaka et Kisangani. La construction de ces antennes a été financée par l'Allemagne et les équipements bureautiques, informatiques ainsi que le transport ont été financés par la coopération australienne pour un coût total de $415 000. Comme vous le savez, en 2009-2010, une étude conduite par le gouvernement a révélé que 300 000 armes légères et de petit calibre étaient aux mains des populations civiles et circulaient illicitement dans l'Ituri, les Nord et Sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika dans le Nord Katanga. C'est dans ce cadre que s'est déroulée d'avril à août 2014 la campagne de désarmement civil volontaire dans l'Ituri, à Bunia, Fataki, Libi, Mahagi, avec comme résultat la collecte de 25 600 armes légères et de petit calibre et munitions. 550 armes à feu ont été marquées. Les remettants volontaires ont reçu en contrepartie des kits, dont des motos, des moulins à moudre et des tôles. Au total, 8 484 kits ont été distribués, ce qui leur a permis de relancer des petites activités créatrices de revenus. L'inauguration des 3 antennes de Kisangani, de Lubumbashi et de Mbandaka est donc un maillon important de la chaîne de sécurisation des personnes et de leurs biens, de la restauration de l'autorité de l'État, de la consolidation de la paix au niveau communautaire et provincial et plus largement au niveau national. Les communiqués de presse de ces informations vous seront distribués à la fin de la conférence. Merci pour votre attention.
Merci Geneviève. Je me tourne à présent vers Sylvestre pour le volet humanitaire. À vous.
Merci. Bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs de Radio Kapi, aux amis de la presse à Kinshasa et à Goma. Les territoires de Malembankoulou et de Poueto toujours en proie à l'insécurité. Dans Malembankoulou, quelques 16 500 personnes ont fui leur village à la suite des attaques des combattants Mai Mai dans 6 villages de ces territoires. Parmi eux, quelques 3000 élèves de 9 écoles et leurs enseignants. Ces miliciens ont pillé, incendié des maisons. Des cas de personnes blessées enlevées sont rapportés par des sources locales. Une mission humanitaire partira de Lubumbashi la semaine prochaine pour plus de précisions sur cette situation. Le territoire de Malembankoulou comptait déjà à la fin de l'année dernière près de 71 000 personnes déplacées. Dans le territoire de Poueto, des cas d'incendie de maisons sont également signalés dans plusieurs villages alors que les personnes déplacées avaient entrepris de retourner dans leur village d'origine. Plus de 1 500 personnes étaient déjà retournées depuis octobre. Avec les partenaires sur place, un travail est en cours pour arriver à déterminer les besoins causés par ces attaques. Dans la province du Maniema, des pluies violentes ont détruit, endommagé le 13 mars une dizaine d'écoles dans le territoire de Pangui, laissant quelques 2500 élèves sans possibilité de suivre le cours. Plusieurs dizaines de maisons ont également été fortement endommagées. Plus de 1400 ménages sont sans abri. Des solutions urgentes s'imposent afin de permettre aux élèves de poursuivre leur scolarité. Une mission se rendra sur place afin de répondre à la situation.
Merci Sylvestre. Direction à présent Goma pour retrouver le major Romain Cassin, porte-parole militaire à Ish, qui va nous faire le point sur la situation sécuritaire. Goma, c'est à vous.
Bonjour. Durant la semaine écoulée, la situation sécuritaire à l'ouest de la République démocratique du Congo a été jugée calme mais imprévisible. En province orientale, des incidents caractérisés par des kidnappings ont été perpétrés pendant la période sous examen par des rebelles de l'armée de résistance du Seigneur, LRA, encore actifs dans le district de Owele, particulièrement dans les territoires de Dungu et de Duru. En Ituri, les miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, continuent de commettre des exactions contre les populations civiles vivant dans les localités situées au sud du territoire d'Irumu. Les éléments du FRPI ont pendant la période sous examen attaqué 12 villages dans les localités suivantes. Gazou, Kapalaï, Matafou, Mangala, Mouara, Gabou, Mandibé, Kagaba, Nyasoma, Sissa, Mokbe et Lakpa, où ils ont perpétré des pillages, viols et kidnappings, ayant provoqué des déplacements de populations civiles. Environ 13 individus ont été kidnappés et 9 femmes violées par les insurgés du FRPI dans les régions concernées. La force de la MONUSCO et l'armée congolaise déployée dans la partie méridionale du district d'Ituri poursuivent leurs opérations contre les insurgés du FRPI dans le but de contrer leurs activités négatives, rassurer et protéger les populations civiles. Au total, 34 miliciens du FRPI ont été appréhendés par l'armée gouvernementale soutenue par les casques bleus de la MONUSCO lors d'opérations menées au cours de ce mois. Du 20 au 22 mars 2015, 5 insurgés du FRPI ont été capturés par les forces de défense et de sécurité congolaises avec le soutien de la force de la MONUSCO, dont 2 soupçonnés d'avoir pris part à l'assassinat, le 3 mars 2015, d'un major des FRDC dans la localité de Ntoroko, dans la région de Guéti, 57 km au sud de Bunia, sur l'axe Bukuringi-Boga. Le climat sécuritaire au Nord Kivu a été marqué par la poursuite des opérations militaires contre les rebelles de l'Alliance des Forces Démocratiques, ADF, auteurs de nouvelles atrocités contre les populations civiles dans le territoire de Beni, mais aussi contre d'autres groupes armés actifs dans les différents territoires de cette province. Entre le 16 et le 21 mars 2015, 5 individus, un homme et 4 femmes, ont été tués dans la région agricole de Mayongoz, située dans la périphérie de Beni. Les forces coalisées, MONUSCO, FRDC, poursuivent dans le cadre de l'opération Umoja 3 bis, la traque des rebelles réfractaires de l'ADF, dans le but d'assurer une protection optimale des populations civiles. Dans le territoire de Massissi, les miliciens de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS, profitant du redéploiement des troupes des FRDC à Lukweti, ont commis de graves violations des droits de l'homme dans la région de Kachébéré, située à 10 km à l'ouest de Nyabiondo. Ainsi, après une période d'accalmie, des accrochages ont repris entre les troupes des FRDC et les miliciens de l'APCLS, aux ordres de janvier, dans la région située au nord-ouest de Nyabondo. Le 17 mars 2015, à Bunagana, le chef du groupement de Jomba ainsi que 3 agents des forces de défense et de sécurité congolaises ont été tués et 2 autres blessés lorsqu'ils interpellaient des hommes armés localisés dans un hôtel. 3 suspects ont été appréhendés. Du 18 mars 2015 à ce jour, 6 éléments en provenance des groupes armés se sont rendus aux troupes de la force onusienne déployées dans la province. Il s'agit de 5 des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et 1 de la PCLS, avec une arme AK-47 et des munitions. Au sud Kivu, en dépit de quelques activités négatives perpétrées par des groupes armés dans certains territoires de la province, l'environnement sécuritaire demeure globalement sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. Dans le territoire de Kalehe, dans la nuit du 19 au 20 mars 2015, des éléments armés non identifiés ont attaqué le poste de contrôle de la police nationale congolaise, situé près du village Noromese, 35 km au sud-est de Minova, tué un policier et emporté 6 armes AK-47. Des troupes d'intervention rapide et FRDC ont immédiatement été déployées dans la zone afin de contrer cette attaque et de rétablir la sécurité dans la région. L'opération dénommée Kamilissa Oussalama 2 se poursuit de manière satisfaisante dans le territoire d'Ouvira contre les rebelles du Front National de Libération, FNL, et ceux des différents groupes armés. Au Katanga, l'armée congolaise, soutenue par la force de la MONUSCO, mène des activités militaires dans le but de contrôler et de mettre un terme au conflit ethnique entre les communautés Luba et Pygmé, mais également contenir les violences perpétrées par les miliciens du groupe Maïmaï Bakata Katanga dans les territoires de Manono, Nyunzu et Moba. Enfin, l'environnement sécuritaire dans le secteur 2 est calme.
Merci Goma. Nous revenons à Kinshasa et comme je vous l'annonçais, notre invité ici est Dr Nicolas Nkiré qui est le point focal tuberculose à l'OMS. Et nous savons aussi que hier, le monde entier a commémoré la journée internationale de lutte contre la tuberculose. Docteur, quelles sont les nouvelles sur ce plan?
Merci pour la parole. Je venais aux nouvelles puisque je voulais sensibiliser et que tout le monde soit au courant de ce qui s'est fait en matière de lutte contre la tuberculose. Et comme vous l'avez si bien dit, le 24 mars de chaque année est célébré comme journée mondiale tuberculose. Cette année, l'année 2015, les thèmes retenus par l'OMS et ses partenaires, c'est la lutte contre la tuberculose, passons à la vitesse supérieure. Pourquoi ces thèmes? La tuberculose est une maladie curable, mais les efforts que nous déployons pour dépister, traiter et guérir toutes les personnes qui contractent ne suffisent pas. Sur les 9 millions de personnes qui, chaque année, attrapent la tuberculose, un tiers n'a pas accès aux soins de santé. L'OMS et les partenaires Halte à la tuberculose font ensemble la promotion de cette journée mondiale, puisque c'est une occasion pour les personnes affectées, les communautés dans lesquelles elles vivent, les gouvernements, les organisations de la société civile, les personnels soignants, les partenaires internationaux d'appeler à de nouvelles mesures pour atteindre ces 3 millions de personnes non atteintes. Une bonne partie de ces 3 millions de personnes vivent dans des communautés les plus pauvres et les plus vulnérables du monde, ou appartiennent aux populations marginalisées comme les travailleurs migrants, les réfugiés, les personnes déplacées, les prisonniers, les populations autochtones, les minorités ethniques et les consommateurs de drogues. Tous les partenaires peuvent contribuer à la progression des approches innovantes garantissant à toute personne atteinte de la tuberculose l'accès au diagnostic, au traitement et à la guérison. La célébration de cette journée donne la possibilité de sensibiliser la communauté, les pouvoirs publics sur les fardeaux que représente cette maladie dans le monde et dans notre pays. Et elle donne aussi l'occasion de sensibiliser à la situation des efforts de prévention et de lutte. Elle est aussi l'occasion de mobiliser l'engagement des politiques sociales, des politiques, des sociales, pour progresser davantage dans la lutte contre la tuberculose. C'est comme ça qu'on a choisi les thèmes « La lutte contre la tuberculose, passons à la vitesse supérieure ». Pour le cas de la RDC, Son Excellence a choisi que cette journée soit célébrée dans les différentes prisons du pays pour la simple et bonne raison que cette population constitue l'une des populations cibles et qui souffre le plus de cette maladie. Voilà ce que j'avais à transmettre. Merci.
Merci, docteur.